what you say about it. There's no life for you without it now.
Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Jean-Mélène Betty.
Il est 7 heures partout en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro. Vous faites bien de suivre cette première édition du Radio de la Paix dont voici les titres. Une opération de déguerpissement a eu lieu récemment dans la commune du Plateau, vitrine de la capitale économique ivoirienne. Un constat a été fait par Didier Blé. Dans le déroulé de cette édition, nous aurons la réaction de Kwaku Kra, vice-président du FPI, sur l'appel de Simone Gbagbo à une coalition de l'opposition ivoirienne. Et puis hors de chez nous, en RDC, la coalition présidentielle Union Sacrée en bonne voie pour la majorité à l'Assemblée nationale. Le parcours des titres de la presse ivoirienne de ce jour sera assuré par Francis Cassi dans cette édition. Et puis en toute fin d'édition, vous aurez l'invité de la rédaction de ce jour, le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la Lido. Il appelle à tirer toutes les conséquences quant à au récent rapport de la Cour des comptes parlant d'argent public. Il est l'invité de la rédaction. Voici pour l'essentiel. Comme annoncé dans les titres, allons au Plateau, le centre des affaires d'Abidjan où les commerçants déguerpient du jardin public face à leur dépit essaient de se redonner un nouveau souffle. Ils exhortent les autorités à trouver une solution à cette situation. Le constat terrain de Didier Blé.
Dans l'enceinte du jardin public au Plateau, l'on pouvait, jusqu'à un passé récent, constater toutes sortes d'activités culinaires, des marchands proposant des articles, des coiffeurs ou encore des cyberespaces. Mais tout cela n'est qu'un lointain souvenir.
Ils ne pouvaient même pas attendre juste après la canne. Vous venez vous déguerpisser. Puis bon, quand c'est comme ça, c'est pas du là-bas parce que c'est des familles qui scolarisent leurs enfants, payent même leur maison, tout ça.
Jacques est un coiffeur qui a passé plus de 10 ans dans cet espace.
On pouvait peindre même le mur du jardin public en couleur nationale, orange, blanc, vert, bien joli, bien proprement.
Il estime également qu'il faut pouvoir trouver une solution.
On peut casser, il n'y a pas de souci. Mais si on pouvait récaser, là, au moins c'était un peu intéressant. Mais il ne faut pas venir faire un déguerpissement. Puis bon, il n'y a pas de solution.
Visiblement en émoi, Viviane, elle, promène ses repas dans des barquettes. Il faut bien survivre.
Cette situation-là, ça nous a beaucoup choqués. On nous a jetés comme ça. On se promène comme ça. On est des mères de famille.
Pour certains travailleurs, se nourrir devient difficile. Félix Yao.
Au niveau du Plateau, il n'y a plus d'options pour pouvoir se nourrir. Soit peut-être faire des commandes en ligne avec des restaurants pour pouvoir se nourrir. Sinon, vraiment, parce que pratiquement tout est fermé. Pour avoir de la nourriture, tout est pratiquement fermé.
Notre parcours au centre des affaires s'est achevé par l'espace gastronomique situé près du consulat du Burkina Faso. Et là également, les portes sont fermées. Les raisons sont différentes. Certaines commerçantes nous informent que de ce qui leur revient des autorités municipales, le marché, après travaux et embellissements, ouvrira ses portes, s'il plaît à Dieu, le lundi 15 janvier 2020.
Toujours sur le même sujet, dans les communes d'Abidjan, des opérations de déguerpissement des populations et commerçants de certains espaces sont en cours depuis quelques jours. À Cocody, ceux qui en ont fait les frais désignent le district d'Abidjan comme responsable de ces opérations, qui, à son tour, reste silencieux, selon le constat terrain de Mel Emmanuel.
Dans le prolongement du pont Vallon, aux abords des routes, nous trouvons des engins en pleine opération de démolition des kiosques et ateliers de menuiserie. Des artisans, propriétaires de ces installations, assistent au spectacle impuissants. Ils affirment avoir été surpris par cette opération. Souma Romoussa, président de leur association.
La machine est venue avec les gens qui sont dans les vestes, nous demande, on vous dit de quitter. Il dit, monsieur, on ne nous a pas averti. La dernière fois, ils sont venus nous dire lundi, quand j'étais dans le Baka, on m'a appelé, on dit, le président, il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens déjà, ils ont commencé à casser mon magasin, sans avertir quelqu'un.
Sans motif et sans mesure d'accompagnement jusqu'à ce jour, jour.
Rien, rien. Jusqu'à présent, rien. Voilà, on a trop de ramasser même nos effets, on ne sait pas où faut.
De l'autre côté de la route, le constat est le même. Il ne reste que des gravats. Naré Martin, lui, était propriétaire d'une boutique et d'un restaurant. Le déguerpissement a débuté en début de semaine, nous dit-il.
C'était le lundi matin à 9h. Ils nous ont dit d'enlever nos affaires, immédiatement qu'ils vont casser. À partir de 10h, ils ont commencé à tout balayer. On n'a rien pu prendre même. Rien. J'ai rien pris.
Et qui pilote cette opération?
On dit que c'est le district. Voilà, c'est ce qu'on a appris.
C'est le district.
Mise en cause par les victimes, le district autonome d'Abidjan n'a pas souhaité se prononcer malgré nos tentatives pour avoir une réponse de leur part. Toutefois, il est à noter que, comme celle d'aujourd'hui, d'autres opérations de déguerpissement ont lieu dans les autres communes d'Abidjan.
De Cocody, on prend la direction de la capitale du Poro, Korogo, où 2192 bénévoles de la région ont bénéficié de 3 jours de renforcement de capacité axés sur des thématiques telles que la sécurité, les violences basées sur le genre, le tourisme, l'éducation à la communication, l'environnement, le civisme et la citoyenneté. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de formation lancé par Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Au thème de cette formation, une cérémonie de prestation de serment de ces bénévoles a eu pour cadre la place de la République de Korogo. Le compte-rendu de Marcel Bonny.
Le bénévole consent librement et volontairement à être mobilisé par l'Office du service civique national dans le cadre de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire du 14 janvier au 11 février 2024. Le bénévole garantit son entière disponibilité à répondre à toute convocation ainsi qu'à effectuer les missions qui lui seront confiées.
Ceci est un extrait de la charte des bénévoles, lu par le porte-parole Thio Moïse, qui traduit leur engagement à œuvrer pour la réussite de la CAN à Korogo sur la base d'une feuille de route édictée par Djarassouba Omar pour le compte du service civique.
Au niveau de l'entretien de la voirie, ils doivent prêter main forte au Timo. Pour la régulation de la circulation, 300 seront mis à la disposition du transport. Il y aura aussi des bénévoles qui seront mis à la disposition de la direction régionale du tourisme pour être des agents d'accueil. Et ils seront dans la ville avec les visiteurs pour les aider à connaître Korogo, à s'approprier Korogo, à visiter Korogo.
Des missions à eux assignées, assorties de consignes données par Ouattara Lassina, maire de la commune de Korogo.
Ensemble, accueillons tout le monde à Korogo comme des frères. C'est à vous les bénévoles, je parle. Soyez polis avec eux, soyez respectueux avec eux, soyez gentils avec eux. C'est ça le programme à dire, l'hospitalité. Soyez généreux. Dis-je même, lui veut partir.
Des bénévoles désormais acteurs clés du changement et ambassadeurs du changement positif, au dire de André Eponon, préfet de la région du Poro, préfet du département de Korogo. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
Et puis parlons promotion du leadership et renforcement des développements socio-économiques à travers le sport. 3 athlètes américaines de haut niveau ont séjourné en Côte d'Ivoire du 13 au 14 janvier 2024. Il s'agit de Shin Ogwimike, attaquante de l'association de l'équipe féminine nationale de basketball de Los Angeles PAAK, Lisa Leslie, double championne du monde de la même équipe, et Crystal Ladoun, footballeuse professionnelle et championne du monde en 2019. Elles ont pu assister au match d'ouverture de la CAN 2023 et ce dimanche, elles étaient en attraction à l'ambassade des États-Unis à Abidjan pour un partage d'expérience à l'endroit de la presse et de la société civile ivoirienne. Sur cette visite, écoutons Jessica Davisba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire.
C'est un honneur pour accueillir nos athlètes, nos icônes professionnelles, les représentants des États-Unis pour accompagner la Côte d'Ivoire, en fait pour accompagner l'Afrique dans ce moment historique. C'est une fierté de montrer le mieux que les États-Unis montrent vers le monde. Elles sont des championnes dans leur sport respectif, mais aussi elles sont des championnes pour l'engagement avec la population. Et comme vous savez, les priorités ici à l'ambassade et pour les États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est le peuple, la paix et la prospérité. C'est ça ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de sport et entertainment, mais aussi nous sommes en train d'investir dans la Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs. Dans tous les domaines, nous sommes en train d'investir dans les jeunes surtout pour les capacités des Ivoiriens pour créer leur propre institution, pour créer les opportunités pour l'avenir.
Jessica Davisba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, était au micro de Ghislain Koulibaly. L'appel de Simone Gbagbo à une coalition de l'opposition ivoirienne pour obtenir des réformes électorales, les partis politiques réagissent. Le FPI qui exprime son adhésion de principe dit attendre que cette invitation soit formalisée. Kwaku Kra, vice-président en charge des questions électorales.
Se concerter sur les réformes électorales a toujours été la préoccupation du Front populaire ivoirien. En 2021, à l'occasion du dernier dialogue politique, ça a été l'affaire du Front populaire ivoirien avec les autres forces politiques, notamment le PDCI. Mais à la dernière minute, au regard des divergences, nous n'avons pas pu convaincre le pouvoir à prendre en considération toutes nos propositions. Si aujourd'hui, après les élections locales et dans la perspective des élections de 2025, la première dame Simone veut donc rassembler les forces politiques pour travailler sur cette question, nous sommes prenants. Nous attendons qu'elle formalise sa démarche, qu'elle saisisse officiellement la hiérarchie du Front populaire ivoirien.
Mais M. Kwaku Kra, vu l'antagonisme au sein de quelques grands partis de l'opposition, vous voyez cette concertation possible?
Lorsque il y a des divergences de vœux, on progresse par objectif. Et les réformes électorales sont un objectif que tout le monde partage. Et en la matière, quand on a un objectif commun, on peut se rassembler autour de cet objectif. Et c'est ce que nous avons toujours fait, même avec la société civile. Donc je crois que la question des réformes électorales qui préoccupe tout le monde peut rassembler l'essentiel des forces politiques.
Kwaku Kra, vice-président en charge des questions électorales, réagissait ici sur l'appel de Simone Gbagbo à une coalition de l'opposition pour obtenir des réformes électorales. Et puis, un mot de sécurité. La Côte d'Ivoire figure désormais parmi les 15 pays les plus puissants du continent et se hisse à la 98e place mondiale selon les données publiées par le site américain spécialisé en défense Global Firepower, une ascension notoire comparée à son classement de l'année précédente où le pays se situait au 19e rang africain et 105e rang mondial. On écoute à cet effet les explications de Lassina Diarra et les chercheurs spécialistes des questions de défense et de sécurité, mouvement terroriste.
Les autorités ivoiriennes ont saisi effectivement l'ampleur de cet enjeu et aujourd'hui, ces autorités ont déployé de gros moyens pour rendre encore l'armée ivoirienne et le secteur de la sécurité intérieure très performants. Et quand on voit aussi les enjeux sécuritaires qui menacent aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec la montée en puissance du terrorisme en Afrique de l'Ouest ou des États comme le Burkina Faso et le Mali, qui ont connu des successions de coups d'État. Juste pour dire que depuis longtemps, le travail qui a été fait par les autorités politico-militaires ivoiriennes sont en train de produire les effets. Et je pense bien que ce sont des choses qui vont s'améliorer au fil du temps.
Alors, des choses qui vont s'améliorer au fil du temps. Vous n'êtes pas sans ignorer que la menace terroriste plane effectivement sur la Côte d'Ivoire, à ses différentes frontières. Comment voyez-vous la sécurisation au niveau des frontières ivoiriennes?
Alors, d'entre eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les États du Golfe de Guinée, actuellement sous pression djihadiste, la Côte d'Ivoire fait figure de bon élève. Et je crois bien que par là, il y a pas mal de mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire. Et vous avez aujourd'hui la création de la zone opérationnelle Nord qui consacre d'intenses activités militaires avec aussi la surveillance du territoire. Et donc, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de se mettre à l'abri des incursions qu'elle avait connues au cours de la période 2021.
On écoute à l'instant Lassina Diarra, il est chercheur spécialiste des questions de défense et de sécurité, mouvement terroriste. Hors de nos frontières, en RDC, les résultats partiels des législatives proclamés ce dimanche dessinent une majorité à l'Assemblée nationale pour les partis soutenant le président fraîchement élu, Félix Tshisekedi. Parmi les 42 formations politiques ayant remporté des sièges, 5 appartiennent à l'opposition, cumulant une trentaine de sièges sur les 477 attribués. Et puis, un mot de sport dans cette édition Cannes 2023, le Nigeria et l'Égypte sont difficilement rentrés en lice dans cette compétition ce dimanche. dimanche à Abidjan, accroché par la Guinée équatoriale 1-1 et le Mozambique 2-2. Les résultats sont toutefois meilleurs que celui du Ghana, surpris 2-1 par le Cap-Vert. Dans le groupe B, l'Égypte de Mohamed Salah a évité la catastrophe en arrachant le nul 2-2 à la 96e minute contre le modeste Mozambique. Mené 2-1, les pharaons détenteurs du record des titres dans la CAN 7 titres ont égalisé grâce à un pénalty transformé par la star de Liverpool après avoir pourtant été mené un but dès la deuxième minute. Dans le groupe D aujourd'hui, l'Algérie défiera l'Angola dans un match qui s'annonce déjà passionnant. Outre l'entrée de jeu de l'Algérie, cette journée du lundi 15 janvier sera marquée par les grands débuts du Sénégal, le tenant du titre qui jouera contre la Gambie. La troisième affiche de la journée verra enfin s'opposer le Cameroun et la Guinée placés dans ce même groupe C. C'est l'heure de la revue des titres des journaux de ce jour avec Francis Cassi. Bonjour Francis.
Bonjour Jean-Mylène, bonjour à tous. Notre revue des titres de vos journaux de ce jour consacrée uniquement à la CAN en Côte d'Ivoire démarrée depuis ce samedi. D'abord par le match d'ouverture lui-même qui opposait le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. CAN 2023, Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, 2-0. Bonne moisson pour les éléphants. Jean-Luc Gassé, l'essentiel a été assuré. Titre à ce propos, l'héritage. Ainsi que l'Inter, les pachydermes barrissent deux fois. Gassé, il nous faudra élever notre niveau. Ce qui fait écrire le quotidien d'Abidjan. Match d'ouverture contre la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire assure l'essentiel. Pour Supersport, match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, 2-0. Un grand Seko fait gagner les éléphants. Merci Seko, renchérit pour sa part notre voix. Avant que nous nous terminions sur ce match de vertu avec le nouveau réveil disant éléphants de Côte d'Ivoire, une belle victoire sur la Guinée-Bissau, mais un jeu peu rassurant. Ensuite, la cérémonie d'ouverture juste avant le match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau a été aussi le premier temps fort de cette compétition panafricaine en terre ivoirienne. Et là-dessus, vos quotidiens rapportant ce qui s'est passé ne boudent pas du tout leur plaisir. Notamment avec ce titre-ci de l'avenir. Splendeur, grandeur, fierté. Cérémonie d'ouverture, simplement féerique. Ce que corrobore le patriote avec la CAN de l'hospitalité tient déjà ses promesses. Féerique, la Côte d'Ivoire expose sa richesse culturelle. D'où cette indication de le nouveau réveil. Canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, festival de fresques et de lumière pour accueillir l'Afrique. Ce que consent le quotidien des soins ivoiriens écrivant. Canne 2023, cérémonie d'ouverture majestueux. Patrice Motsepe, ce sera l'une des meilleures Cannes. Paris gagné pour le Coucane. Et dans ce même sens, le jour plus affiche. Ouverture de la CAN 2023 samedi à Ebimpe. Paris réussit pour Alassane Ouattara. Quand Fraternité Matin, lui, à cet effet, rapporte ses propos ci du premier des Ivoiriens. CAN 2023, le président Ouattara à l'ouverture. La Côte d'Ivoire, l'Afrique en miniature. Mais tout n'était pas totalement féerique à l'ouverture de cette CAN en 2023. Il y a eu un petit point noir, à en croire le sursaut Barin 6-1. Ouverture de la CAN 2023, comment le marché noir des tickets a gâché la fête? Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassi, on vous retrouve à 8h pour le même exercice. L'invité de la rédaction de ce jour est le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la Lido. Il appelle à tirer toutes les conséquences, dont prendre des décisions quant au récent rapport de la Cour des comptes parlant d'argent public lié à l'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports au titre de 2022 qui n'aurait pas été reversé dans les caisses de l'État. Willy Net Alexandre répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Willinette Alexandre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Dans un communiqué de presse, la Lido dit manifester sa profonde préoccupation à la lumière du récent rapport de la Cour des comptes sur des irrégularités en rapport avec la loi organique des finances. Pourquoi ?
En tant que citoyen, nous avons certains droits, notamment le droit à l'information, et nous avons aussi le droit de demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. C'est donc dans cette optique que, suite au rapport de la Cour des comptes, on a bien voulu manifester nos préoccupations à travers un communiqué de presse que nous avons produit le 9 janvier dernier.
Et puis, vous vous inquiétez dans ce rapport par rapport aux dysfonctionnements qui interviennent à une période où on vient d'augmenter le coût de l'électricité de 10%. Pourquoi ?
Oui, effectivement, parce que les allégations qui ont été énoncées dans le rapport peuvent laisser à penser à des actes de malversation financière. Alors, il n'est pas de bon aloi qu'au moment où on demande aux populations de faire des efforts, on s'interroge sur les efforts du gouvernement. Voilà.
Dans ce communiqué, vous dites aussi que le gouvernement doit réduire l'effectif des ministres et puis des institutions budgétivores et diminuer aussi le train de vie des membres du gouvernement.
Absolument, parce que je pense que s'il y a des exemples à donner de sacrifices à faire pour le pays, je pense que cet exemple doit commencer par ceux qui nous dirigent, notamment sur le budget qui est alloué à l'ensemble de ces institutions-là qui dirigent notre pays, notamment le gouvernement. On pourrait commencer par exemple, réduire le nombre de ministres, parce que chaque ministère est doté d'un budget. On pourrait commencer aussi par identifier les institutions qui ne sont pas nécessaires dans le fonctionnement de notre pays, même s'ils sont prévus. Et puis, dans un souci d'économie, de lutter contre la cherté de la vie et de ne pas soumettre nos concitoyens à une pression fiscale, à une augmentation de charges, on pourrait justement réduire ces institutions-là pour que cet argent-là puisse servir justement à combler ces pertes d'exploitation-là.
Mais on pourra vous rétorquer que ce qui vient de se passer, dénoncé par la Cour des comptes dans son rapport par rapport à de l'argent public qui n'aurait pas été versé dans les caisses de l'État venant des frais sur les passeports et cartes nationales d'identité, mais on pourra vous dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le train de vie des membres du gouvernement ?
Écoutez, vous voyez qu'on a essayé de mettre en rapport le sacrifice qui est demandé aux populations et le train de vie du gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, entre deux mots, je pense qu'il faut choisir. Si, en tant qu'autorité, notre souci est de faire en sorte que les populations puissent vivre de façon décente, ça veut dire qu'il faut trouver les voies et moyens de sorte que ce ne soit pas les populations qui payent au moment où il y a des pertes qui sont constatées.
Mais après la publication de ce rapport de la Cour des comptes, les ministres de l'Intérieur, de la Sécurité et des Finances et du Budget ont fait un communiqué conjoint pour des précisions.
Oui, au-delà des précisions qui sont faites, le constat c'est qu'il y a une perte de près de 127 milliards, une perte en termes d'exploitation dans ce secteur de l'électricité-là, ce qui a amené l'État à revoir à la hausse de 10% la contribution des citoyens. Cela nous amène à nous interroger. Et lorsqu'on produit un rapport et qu'on identifie certains dysfonctionnements, certaines irrégularités, cela peut laisser à penser que d'abord, il y a un certain manque de vigilance dans la gestion des fonds publics.
Et votre document souligne aussi que la bonne gouvernance et la transparence sont des éléments essentiels pour le fonctionnement d'un État de droit. Pourquoi dites-vous cela ?
Oui, mais écoutez, quand vous confiez la gestion d'une entreprise de l'État à certains d'entre vous, il est normal que d'abord les principes que vous avez édictés ensemble pour la gestion puissent être respectés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que la transparence. Et puis, finalement, il y a cette obligation de redevabilité de ceux qui parlent en notre nom vis-à-vis de nous, c'est-à-dire nous rendre des comptes. Alors, au nom de ce principe-là, que la Cour des comptes, justement, a fait son rapport et l'a publié. Donc, il est tout à fait normal qu'en tant que citoyen, on ait droit à l'information.
Alors, le droit à l'information dont vous parlez doit venir de qui ? Qui doit vous rendre ce compte-là ?
Mais ce qu'on a mandaté à travers les institutions qu'on a prévues dans nos lois.
Mais dans le cas précis de cette affaire d'argent qui n'aurait pas été reversé dans la caisse de l'État, qui sont les personnes indiquées ou les structures indiquées à rendre compte ?
Je pense que le rapport de la Cour des comptes est assez clair par rapport à certaines institutions. Et c'est ces institutions qui doivent rendre compte.
La LUDO appelle également les autorités compétentes à prendre les mesures immédiates pour se conformer aux recommandations de la Cour des comptes. Quelles sont ces recommandations-là de la Cour ?
Je ne pourrais pas le dire de façon exhaustive, mais déjà de respecter les différents principes qui ont été évoqués à travers la loi organique des finances.
Et de quelle autorité compétente faites-vous allusion pour prendre des mesures immédiates ? Et quelles sont ces mesures-là ?
On n'a pas la prétention de dire qu'on connaît l'ensemble des autorités qui doivent prendre directement des mesures, mais quand on parle d'autorité compétente, c'est toutes les autorités qui sont concernées. La première autorité compétente, c'est le chef de l'État, qui est le président de tous les Ivoiriens, donc qui est le chef de toutes les institutions que nous avons dans notre pays, et qui se doit donc de prendre des dispositions pour que tout cela soit respecté.
Mais pourquoi, dans une telle affaire, tout le monde dit le chef de l'État et ne se tourne pas aussi vers la justice ? Est-ce que la justice ne peut pas se tout saisir ?
Mais de toute façon, en l'état actuel des choses, nous n'avons pas la prétention de dire qu'il y a eu des infractions. Nous, on a tout juste relevé à la lecture du rapport qu'il y a eu des irrégularités. Et donc, nous, on pense que, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y a pas eu d'infraction en tant que telle. Voilà pourquoi, dans notre communiqué de presse, on parle d'allégations qui pourraient laisser à penser à des actes de malversation. Et que donc, on laisse les autorités compétentes prendre leurs responsabilités.
Donc, notamment la justice, maintenant, pour mener des enquêtes, afin d'être bien située, n'est-ce pas?
Ça peut être aussi une autorité qui prenne ce genre de disposition.
Willy Net, Alexandre, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous offrez à notre organisation de se prononcer.
À l'instant, l'invité de la rédaction interrogé par Francis Cassi. Voici qui met un point final à cette édition, mais avant le rappel des titres. Une opération de dégarpissement a lieu récemment dans la commune du plateau Vitrine de la capitale économique ivoirienne. Un constat a été fait par Didier Blé. Et puis dans cette édition, nous avons eu la réaction du Kwaku Kra, vice-président du FPI, sur l'appel de Simone Gbagbo à une coalition de l'opposition ivoirienne pour les réformes électorales. Hors de chez nous, en RDC, la coalition présidentielle Union Sacrée en bonne voie pour la majorité à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Dans un court instant, le magazine Au cœur de la CAN présenté par César Yao.
Ok Lilian, on reprend encore une fois.
Champion.
Super, t'es prêt?
Champion d'Afrique. Oui, je suis prêt.
Allez, cette fois on donne tout.
Il l'a fait pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot, champion d'Afrique.
Avec Canal+, on